Bien, bonjour à tous. Bonjour aux habitués et bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. On a des visiteurs chaque semaine et on aimerait vous inviter à... On est très heureux que vous soyez là et on aimerait vous inviter à vous rendre au kiosque d'information à la fin du service. Nous allons vous remettre des cadeaux, dont un s'appelle God of Wonders. En fait, il va y avoir des sous-titres en français, mais c'est pas tellement une histoire comme d'avoir une présentation de la beauté de la nature et de la création. Tout à fait magnifique, un vrai chef-d'œuvre. D'ailleurs, ça nous fait penser au psaume 150 qui dit que l'étendue manifeste la puissance de Dieu. Tu regardes la création à l'extérieur et puis tu ne peux faire autrement que d'être sensible, de voir la grandeur de ce créateur qui est en arrière de cela. Et vraiment, ce DVD va vous permettre de voir vraiment la beauté de la nature. Aussi, on va vous remettre un livre. Donc, on vous encourage à aller là. Et en plus, n'hésitez pas, on va vous inviter à mettre vos coordonnées, vos informations, votre nom, téléphone, tout ça. On veut rentrer en contact avec vous. Parce que nous prenons au sérieux le mandat que le Seigneur nous donne de faire de toutes les nations des disciples. On veut s'occuper de vous, vous entourer, cheminer avec vous pour vous aider à grandir dans votre croissance spirituelle. Donc, nous prenons ça au sérieux, c'est ce qu'on veut faire, on veut vous accompagner. En même temps, si vous n'êtes pas prêt, on comprend ça, ne vous sentez pas mal à l'aise, attendez, c'est pas grave. Vous allez tranquillement nous découvrir puis voir finalement qu'on n'est pas si pire que ça. Et on veut du bien. On veut prier pour vous, on veut vous accompagner dans votre cheminement. Eh bien, un journaliste réalisait une entrevue un jour avec un homme qui célébrait sa 100e année. Imaginez un homme de 100 ans. On va probablement en connaître de plus en plus à mesure que la technologie, la science avance et nous aide à nous garder en forme de plus en plus. Mais ce journaliste parlait à cet homme qui célébrait sa 100e année. 100 ans. Alors, un homme plein d'expérience. Alors, le journaliste lui demande, dites-moi, de quoi, de toute votre vie, là, de quoi êtes-vous le plus fier? Et le centenaire, le monsieur qui avait 100 ans, réfléchissait puis disait, « Savez-vous, je n'ai pas un seul ennemi dans le monde. » Le journaliste, il n'en revenait pas, mais il dit, « C'est fameux! » Il dit, « Quelle belle pensée! C'est inspirant, ça! » Alors, il lui demande, il dit, « Comment avez-vous réalisé cet exploit-là? » Alors, le monsieur... un petit sourire et dit, bien, pour être honnête, parce que je suis le seul qui reste en vie. À 100 ans, là, tous tes ennemis, là, ils ont de la misère à suivre. Mais là, on comprend ce qu'il est en train de dire, ce monsieur-là, certainement. On veut pas se faire des ennemis. On aimerait ça avoir juste des ennemis, juste des amis. Ouais, on veut pas d'ennemis, hein? T'es un peu, là. Change la cassette, la bobine, rebobine ça, là. On veut pas d'ennemis, on veut se faire que des amis. Mais pour être... Comme on va voir ce matin, pour être honnête avec vous, il y en a un qu'on sera jamais capable de déjouer, on sera jamais capable de le survivre, vivre plus longtemps que lui, et nous avons tous et chacun le même ennemi, et il est bel et bien en vie. Soyez-en certains, si vous pensez ne pas avoir d'ennemi, vous en avez un qui existe et qui vit, et il vous hait. Il vous déteste, il est prêt à vous détruire, vous faire tomber, vous décourager ou vous faire souffrir. Il est rusé, hypocrite, accusateur, manipulateur et vous ne pourrez jamais déjouer ses pièges ni le détruire. Eh bien, ce matin, on commence une nouvelle série on va arrêter la semaine prochaine, c'est la fête des mères. Et puis... on va revenir à la série dans deux semaines, en fait, mais on commence une série ce matin qui s'appelle « Les armes du chrétien ». Je sais, c'est un terme militaire et tout ça, les gars, on est là, yeah! Mais on comprend ça, c'est pas tout le monde qui aime ça, ces termes-là, militaires, de soldats, grenades, carabines, mitraillettes. Mais c'est les expressions que la Bible va employer pour décrire un élément de la vie chrétienne. Et on a besoin de s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Vous et moi, on est dans une guerre spirituelle. On est dans une guerre spirituelle. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui vient de sortir justement en 2014 qui s'intitule « Spiritual Warfare ». A Biblical and Balanced Perspective. En d'autres mots, le combat spirituel, une approche, une perspective biblique et équilibrée sur le combat spirituel par Brian Borkman et Rob Ventura. Et voici ce que ces auteurs disent, et c'est une réalité de la vie chrétienne. Voici ce qu'ils disent. Ils disent, la vie chrétienne, c'est pas un terrain de jeu, mais un champ de bataille où se livre une guerre spirituelle. Plus on marche près du Seigneur, plus on avance au front de la bataille. C'est une réalité qui porte chaque chrétien à réfléchir. Aucun chrétien n'a le loisir d'ignorer les manœuvres menaçantes du combat spirituel. Surtout quand un ennemi si dangereux cherche à détruire notre foi. Il est critique que nous soyons bien informés sur Satan qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. On a besoin de vous et moi de s'arrêter sur cette question si importante sur le combat spirituel et apprendre comment s'armer pour y faire face. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, nous pouvons connaître et célébrer la victoire, mais on a besoin de s'armer pour le faire. Et c'est ce que nous voulons voir à travers cette série. Le combat spirituel du chrétien est tellement important que l'apôtre Paul va choisir de terminer l'une de ses lettres qui s'enlignait pas du tout dans ce sens-là, complètement arrête, fait une pause, un time-out et amorce une longue section sur le combat spirituel. Parce que l'apôtre Paul et le Seigneur qui inspire ses lettres, c'est fort bien que nous avons besoin de comprendre comment s'armer et faire face à ce combat spirituel. Paul, par exemple, on vient de terminer une série sur « Pour qui te prends-tu? » C'est une étude, c'est une série de messages sur notre nouvelle identité maintenant que nous avons en Jésus-Christ. Et nous avons traversé la lettre aux Éphésiens. Si vous voulez avoir les messages, c'est sur Internet, vous pouvez avoir toute la série, et c'est gratuit. On a passé à travers la lettre aux Éphésiens. Et c'est une courte lettre, seulement 6 chapitres. Et quand on arrive au chapitre 6, Paul va amorcer une discussion sur le combat spirituel. Quand on regarde le contenu de la lettre de Paul aux Éphésiens, on voit que Paul ouvre sa lettre en nous décrivant la vie chrétienne sur une note très constructive. Par exemple, les 3 premiers chapitres vont nous montrer ce que Dieu va faire pour remettre de l'ordre dans notre monde. Au chapitre 1, par exemple, nous voyons que la solution au désordre et à la confusion de notre monde est nul autre que Jésus-Christ, alors qu'il est le roi de toutes les nations. Sous son contrôle, sous le contrôle du Seigneur Jésus, tout ce qui est confus va devenir cohérent et harmonieux. Paul va commencer, il va suivre après ça au chapitre 4. Et Paul va commencer chapitre 4, 5 et 6 en disant, d'accord, maintenant que nous avons vu, à la lumière des informations qu'on vient de voir ensemble sur notre nouvelle identité de Jésus-Christ, à la lumière de tout ça, voici comment vivre à la lumière de notre nouvelle identité, qui nous sommes maintenant. Alors, les chapitres 1 à 3, on a vu qui on est et tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Maintenant, à partir du chapitre 4, on va regarder ce que ça implique dans notre quotidien. Et Paul va répondre en nous donnant une série d'enseignements sur la façon de vivre du chrétien en fonction de cette nouvelle identité que nous avons maintenant en Jésus-Christ. Et le raisonnement du chapitre 4 et chapitre 6 est celui-ci. Puisque nous avons tout ce dont nous avons besoin maintenant en Jésus-Christ, nous pouvons vivre maintenant. Nous avons la puissance, nous avons tout ce que nous avons besoin pour vivre à la lumière de cette nouvelle identité. Par exemple, le chapitre 4 et chapitre 6 montrent ce que ça signifie que changer, ce que ça signifie se débarrasser du vieil homme, de la vieille façon de penser, de nous laisser changer tranquillement dans notre esprit. Ça signifie d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie et comment la plénitude du Saint-Esprit va avoir des incidences, va affecter notre vie quotidienne, dans toutes nos relations. Ça a un impact dans nos relations de mariage, dans notre mariage, on a vu ça au chapitre 5 et chapitre 6, dans notre éducation avec les enfants. Ça va avoir un impact dans notre relation de travail, dans nos relations, avec la façon de traiter notre employeur, nos employés. Et tout d'un coup, après avoir passé les chapitres sur notre nouvelle identité en Jésus-Christ, après avoir passé tous ces chapitres et nous décrire tout ce que nous avons, la richesse que nous avons maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, en nous montrant aussi comment ça a des incidences sur chaque portion de notre vie, là tout d'un coup, chapitre 6, il arrive, puis il arrête, puis il dit « Time out! Time out! J'ai besoin de vous dire quelque chose de très sérieux. Sans ça, vous allez avoir des vrais problèmes. Vous allez avoir des gros problèmes. » Et il s'arrête. Et on va commencer juste à lire, on va se concentrer seulement sur quelques versets ce matin. C'est une introduction, on veut mettre la base, jeter la base, le fondement, et on va construire là-dessus dans les prochaines semaines. Et on va passer à travers ce passage, à travers les prochaines semaines. Donc, tournez avec moi, si vous voulez bien, dans Éphésiens chapitre 6. Et nous allons lire à partir depuis le verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Tiens, juste avant de lire la section, courbons-nous juste un instant, demandons la bénédiction à Dieu. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce message, dans ce passage que tu as inspiré sous la plume de Paul. Nous avons besoin de nous y arrêter. On a besoin de comprendre tout d'abord, mais ensuite mettre en pratique ces enseignements que nous allons recevoir au cours des prochaines semaines. Aide-nous par ton Esprit Saint à obéir avec foi et avec joie aux enseignements que nous allons recevoir au nom de Jésus. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul commence cette nouvelle section avec un mot important qui dit « enfin ». Enfin, mes frères et sœurs. C'est un peu comme si, dans le fond, depuis le début de la lettre, Paul se préparait à arriver, à aboutir au dénouement de sa lettre, à la conclusion de sa lettre avec cet enseignement si précieux sur ce combat spirituel. Enfin, mes frères et sœurs. C'est une expression, enfin, qui marque la conclusion, le dénouement, l'aboutissement attendu de quelque chose. Maintenant, c'est une façon bizarre de terminer une lettre si inspirante et édifiante que la lettre aux Éphésiens. Il aurait pu choisir d'autres lettres. Mais je trouve ça étrange, particulier, que Paul va choisir cette lettre qui parle de notre nouvelle identité en Jésus-Christ pour parler du combat spirituel, de si intense que le combat spirituel. Alors, au lieu de clôturer cette magnifique lettre sur ce que nous avons en Jésus-Christ, alors qu'il vient de brosser vraiment un chef-d'œuvre sur notre nouvelle identité en Jésus-Christ, il dit, moi, je peux pas finir comme ça. Je dois vous parler de quelque chose qui est très sérieux et vous avez besoin de comprendre. Je dois finir en vous parlant de quelque chose parce que sinon vous aurez des gros problèmes. C'est à peu près comme si tu envoies des ouvriers sur un chantier de construction. Tu les équipes, tu donnes le matériau, tu donnes le plan d'architecte, tu donnes tout ce qu'ils ont besoin pour construire. Et ils sont toutes prêtes, ils embarquent dans les pick-up, ils sont toutes prêtes là à s'en aller. Juste avant de s'en aller, ils disent « Oups, oups! » Le contracteur dit ceci, « Oups! » L'entrepreneur, j'ai oublié de vous dire ceci, vous en allez construire un beau bâtiment, mais je veux que vous sachiez que vous en allez dans un territoire, vous allez vous retrouver exactement en plein milieu d'un territoire ennemi. Alors, est-ce que je peux vous dire que les menuisiers n'agiront pas de la même manière s'ils construisaient un bâtiment sur la rue Maloney que s'ils construisaient un bâtiment en plein dans le centre-ville de l'Ukraine ces jours-ci? On s'entend que comme menuisier, toute ta perspective change, tu vas faire attention, tu ne voudras pas marcher dans des endroits qui seront dangereux, dans les sentiers qui sont à risque, tu vas avoir ton marteau, mais tu vas toujours être là, puis tu vas toujours regarder pour voir, tu sais, si tu es correct, on peut travailler, cogne un petit peu, réveille pas trop, ça te change complètement, vois-tu? Et c'est ce que Paul est en train de nous avertir, il nous prépare, il nous dit, écoute, la vie chrétienne, voici ce que vous avez en Jésus-Christ. Mais en passant, je tiens à vous dire, vous vous trouvez en plein dans le cœur d'un territoire hostile à l'Évangile. Vous avez besoin d'être au courant de ça. Parce que nous, on n'est pas habitués, on vit au Québec. Pense pas comme ça. Quoi? Guerre, tout ça, c'est loin. Ça fait penser à mon voyage que j'ai déjà fait il y a bien des années en Israël. Dans ce temps-là, en Israël, c'était très tendu. Une semaine avant qu'on arrive juste dans le bazar, où on allait marcher dans un grand couloir plein de marchands, c'est pas très large, à peu près juste 6-7 pieds, tu marches, c'est plein de gens. Puis juste une semaine avant qu'on arrive, il y a un Juif qui s'est fait planter un tournevis dans le dos, tu sais. T'es dans un territoire, tu sais, comme c'est comme hostile, c'est tendu, tu marches, tu visites. Alors, c'est évident que nous, c'est un voyage organisé. Dieu merci. Un voyage organisé, puis le guide touristique nous a dit, écoutez, là, il dit, vous autres, vous arrivez du Québec, vous n'êtes pas conscient du danger qu'il y a ici, là. Vous autres, vous allez vous voir vous promener n'importe où, mais il dit, moi, je vais vous donner un avertissement. Faites attention. D'ailleurs, vous avez une après-midi de congé. Vous êtes énervé pour nous autres. On arrivait du Québec. Hey, on va aller visiter, t'es, on va aller visiter ça, il serait là, c'est tellement beau. Non, non, lui, il dit là, il dit, moi, là, tous les matins, je lis les journaux, à peu près 5 journaux pour savoir s'il y a des districts qui sont plus dangereux que d'autres, plus à risque que d'autres. Vous autres, vous les connaissez pas, vous savez absolument rien de ça. Vous arrivez du Québec, c'est tout beau, la paix, la vie, c'est tellement beau là-bas, en Amérique du Nord. Ici, c'est pas pareil, les amis. Puis, il était nerveux ce qu'on allait faire le mardi après-midi, parce qu'il y avait une journée de congé, une après-midi de congé. Les autres journées, t'es pas nerveux, on était toujours avec lui dans le même autobus, puis on le suivait. Puis, c'est lui qui nous disait, OK, on s'en va là, on s'en va là, on s'en va toute la journée, puis on venait le soir. On était comme, on suivait tout le monde. Mais il était vraiment nerveux pour le mardi après-midi, puis il a bien fait d'être nerveux. Nous, on était là, 22 pasteurs. 22 pasteurs ensemble. Une gang de mémères, puis on est tous là, puis ça genre, on s'en va visiter. 22 pasteurs ensemble, on s'en va visiter ça, on est là-bas. Puis un mardi après-midi. Dans la gang des pasteurs, il y a un gars qui s'appelle Guy Lavoie. Hein? Il y en a qui le connaissent pas, mais il y en a qui le connaissent, hein? Guy Lavoie avec un autre couple de gars un peu comme lui. Fait que là, on est dans la gang, puis il dit, on va se louer une petite van, puis on va partir mardi après-midi. Pas besoin du guide touristique. On va prendre la carte, puis on va s'en aller à une couple de places, puis on va voyager. On va aller voir ça. Hein, les gars? OK, on va suivre. Oui. Hey, mon ami, on s'en va d'une place. On rentre, on était tout perdus. On rentre dans une cour de maison avec la van. Écoutez, Guy avait acheté ses gros foulards par-dessus avec le bandeau ici, puis chauffait avec sa grosse barbe. Il y avait des gars, la petite van était pleine du début jusqu'à la fin. Eux autres savaient pas que c'était des pasteurs. Eux autres pensaient que c'était d'autres mondes qui en venaient les attaquer. Si bien que quand on est arrivé, on rentre dans la cour, on était tout mêlés, on essaye, on rentre dans la cour, on est là, les enfants sortent en cour. On va courir après nous autres, la famille sort, du monde sort, les amis commencent à courir après nous autres. On dit, Guy, dépêche-toi! C'est lui qui chauffait, tu sais, franchement. Il chauffe, il commence à chauffer, il recule, il essaie de sortir. Dépêche-toi, Guy, sors, ça presse, la gang s'en vient. On était là, oh, attends un peu, j'ai de la misère. Fait que là, il sort, et finalement, on est parti. Les Québécois sont arrivés en ville. Comprends pas le danger, nous autres, on est en paix ici, il n'y en a pas de problème. Tu peux aller n'importe quelle rue. T'as pas personne avec une grenade qui va se promener là-bas, c'est sérieux. Hey, il y a une journée, on est arrivé avec l'autobus, on arrive sur un terrain, des touristes, on s'en vient visiter une belle place, et puis on arrive en autobus, on roule, on s'en va stationner là-bas, puis on s'en va visiter le site là, puis sur le site, un petit peu plus bas, il y a un touriste, je sais pas c'est qui, il n'était pas dans notre gang, c'était un autre voyage organisé. Le gars sort du sentier que le guide touristique avait dit, il dit, tu te limites à ça, tu sors pas du sentier. Nous autres, on a l'impression qu'on est sous le parc Gatineau, tu sais. On se promène, puis on visite, puis on se promène. Là, le gars nous a dit, non, vous sortez pas, il y a peut-être des mines qui restent depuis des années, puis on les connaît pas, on sait pas où ils sont. Ben, voyons. Comme un gars, comme de fait, sort de son sentier, commence à descendre. C'était tout beau, à l'œil, super de beau gazon. Il descend, il sort du sentier, laisse sa gang, s'en va visiter un petit peu plus bas, bang, ça saute. Nous, on arrive, les voyageurs du Québec, on voit-tu pas la fumée, l'ambulance, un hélicoptère ambulance, toute la fumée, puis on arrive, puis on dit, c'est quoi ça? Puis le guide, il dit, c'est une bombe qui vient de sauter, une mine qui venait de sauter, le gars marchait sur une mine. Bienvenue. Welcome. OK, on s'en va là. C'est pas pareil. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Il dit, les amis, c'est pas un terrain de jeu. Et je vous dis, la vie chrétienne, c'est un champ de bataille. C'est une guerre spirituelle. Puis il dit, on a vraiment besoin de réaliser ça si on veut avancer dans notre vie chrétienne puis avoir la victoire. Et c'est ce que Paul veut nous dire ici. C'est un des premiers points, d'ailleurs, que Paul va nous dire dans son introduction là. Ce qu'on a besoin de réaliser, c'est qu'on est dans un territoire hostile à la vie chrétienne, hostile à l'Évangile. Les forces de l'ennemi rôdent autour, puis sont déterminées à nous détruire puis nous faire tomber. On a besoin de le réaliser. Regardez ce que Paul dit au verset 10. « Enfin, mes frères et sœurs, Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, dit Paul, prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. On doit reconnaître que nous avons tous ces journées mauvaises, où il y a des forces du mal qui sont là et nous, on les voit pas de nos yeux. C'est pas à l'œil nu, on voit pas ces choses-là. Et on se retrouve dans des journées, des jours mauvais, comme dit Paul. Certains jours sont mauvais. On sent comme s'il y avait une force, une puissance qui est présente et on essaie de nous rendre vulnérables, coupables, de nous rendre sensibles devant la tentation. On se sent plus fragile cette journée-là que d'autres. Il me semble que les tentations sont plus fortes que d'autres qu'habituellement. On sait que ces jours mauvais existent. On comprend pas pourquoi. Tout semble se détériorer puis tomber autour de nous autres. Et vous savez quoi? J'ai parlé à plusieurs chrétiens avec les années puis il y a une chose qui revient souvent, que je vais entendre. Je vais dire, tu sais, les gens vont dire, tu sais, moi je vois les chrétiens, regarde les chrétiens, il me semble qu'ils ont l'air tout heureux, tout va bien dans leur vie. Mais dis-moi, c'est pas de même dans ma vie. Moi, ça va vraiment pas bien dans ma vie. Puis la conclusion qu'ils vont tirer de ça, c'est que ça doit être parce que je suis pas chrétien. Pour moi, je suis pas un vrai chrétien. Ou c'est parce que je suis pas un bon chrétien. Avez-vous déjà entendu ça? Parce que si tu es un bon chrétien, tu vas être béni. Oh, Dieu va tellement te bénir, là, ça va être incroyable. Il y a même certaines églises, et on appelle ça la prospérité de l'Évangile, vont aller aussi loin que de dire que Dieu te veut toujours en santé, jamais malade, puis tu vas être riche. Ah oui? Mais quand on va me voir ici, c'est vraiment pas ça. C'est tout à fait le contraire. Absolument pas. Qu'est-ce que tu fais quand ça arrive, que ces journées-là, ces jours mauvais-là arrivent, puis tu es confronté devant ces jours mauvais? Tu fais quoi? C'est quoi ta réaction? Bien, il y a trois réactions qu'on peut avoir. Je pense que je les ai toutes vécues avec les années. La première réaction, c'est de dire, bah, c'est des coïncidences. Ça va mal cette semaine, ça va aller mieux la semaine prochaine, tout ça. Alors, tu raisonnes un petit peu, t'es logique, rationnel. Tu dis, ah, écoute, ça va passer. Tout passe dans la vie. Alors, tu tires une sorte de conclusion logique. Tu dis, écoute, c'est des coïncidences. L'autre réaction possible qu'on va voir, qu'on peut avoir, dans les jours mauvais, c'est qu'on met la faute sur les autres. Mais c'est la faute des autres. Certaines personnes vont paniquer, vont dire, c'est ça, les autres m'en veulent, ils veulent me critiquer, ils veulent me faire tomber, les autres m'aiment pas, je suis pas aimé ici. Ils voient les autres comme des méchants. Et si leur vie va mal, c'est la faute des autres. Ils veulent me détruire. L'autre réaction possible, c'est tout à fait aller à l'autre extrême, c'est que c'est de ma faute. Je suis pas assez bon, je suis trop méchant. J'ai rencontré des gens, même dernièrement, qui me disaient ça, qui pensaient qu'ils étaient... qu'il y avait quelque chose là, qu'il y a une malédiction sur lui parce qu'il se sentait trop méchant. C'est ça. Là, tu mets tout ça sur toi, sur tes épaules. Dis, écoute, moi, je suis pas bon. Si j'ai des échecs dans ma vie, c'est de ma faute. C'est moi. Je vaux rien. Et ça, c'est l'autre extrême. Trois possibilités. Être rationnel, bah, ça va s'arranger, c'est des coïncidences. Mettre la faute sur les autres, mettre la faute sur moi. Ou quatre, moi j'aimerais vous proposer qu'il y ait une quatrième possibilité aussi. Quelle autre réaction je pourrais avoir? Soit que je m'abaisse, soit que je panique, soit que je raisonne en disant que c'est juste des coïncidences, si tout va mal aujourd'hui. Ou je peux dire ceci. Voici une journée où les forces du mal essaient de m'écraser et me détruire, et j'ai vraiment besoin de porter les armes de Dieu si je veux me tenir debout. Et c'est là que Paul veut nous emmener. C'est là qu'il veut nous emmener. Dans le passage que nous sommes en train de regarder en ce moment, Paul est en train de nous dire, voici comment le faire. Je vais vous montrer comment le faire. Paul nous dit, si tu sais, quand c'est une mauvaise journée, quand tu as l'impression que quelqu'un te cherche, puis il essaie de te détruire, ben c'est peut-être vrai. C'est qu'effectivement, c'est peut-être vrai, et c'est vrai, mais c'est pas celui que tu penses. C'est que derrière tout ça, il y a le diable, et lui, il veut te détruire. D'ailleurs, regarde quelqu'un qui va se faire baptiser. Il y a un cours en ce moment, il y a une dizaine de personnes qui vont se faire baptiser. Je ne sais pas si vous êtes fait baptiser, vous rappelez-vous la semaine avant le baptême, comment c'était affreux? Est-ce que c'était affreux pour bien des gens d'entre vous? Levez la main là pour ceux que vous vous rappelez de cette date-là du jour de baptême. C'est épouvantable. Moi, je parle à des gens, des fois, je parlais du dernier baptême qu'on a eu. Là, je suis allé voir une personne, puis je dis « Comment ça va? » Elle dit « Mon ami, on est arrivé au baptême aujourd'hui, j'avais assez hâte, parce que moi, cette semaine, j'avais assez hâte de la finir. » C'était épouvantable. Et ça arrive. Ça arrive parce que le diable veut nous décourager à progresser puis à avancer dans nos décisions qu'on prend pour Dieu. Alors, quand on met la faute sur les autres ou sur nous constamment, c'est pas sain, ça. C'est pas sain. L'approche la plus saine sur le plan même psychologique, c'est d'éviter l'amertume, la culpabilité, on va commencer à haïr les autres ou on va commencer à s'haïr, et la culpabilité déplacée, parce qu'il y a une saine culpabilité, évidemment, que le Seigneur peut se servir pour nous ramener à la repentance, mais il y a une mauvaise culpabilité, une culpabilité démesurée, exagérée, déplacée. Alors, si on se laisse aller dans ces choses-là, on va se sentir démoli, découragé. Ce qu'il faut nous rappeler, c'est qu'il y a plus ici qu'il n'en paraît. Il y a quelque chose, il y a un combat spirituel qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est dans le monde spirituel, on ne le voit pas à l'œil nu, mais c'est là et il veut nous détruire. Le diable et ses anges déchus, les démons veulent nous détruire. Il y a ici plus que ce qu'on peut voir. Il y a des aspects qui nous échappent au regard. L'une des pièces de Shakespeare, c'est Hamlet, et dans la pièce d'Hamlet, il dit ceci. Hamlet dit ceci à Horatio, il dit « Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, que n'en rêve votre philosophie. » Et c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui est au-delà d'ici, là, sur terre. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. Il y a plus ici que ce qu'on peut voir à l'œil nu. On a besoin de porter les armes de Dieu, car il y a des combats, un combat spirituel qu'on est en train de livrer. On se retrouve en plein milieu de ce territoire hostile à l'Évangile qu'on ne voit pas. Il y a plus ici qu'on ne voit. Et on a besoin de l'aide du Seigneur. Et verset 10 et verset 11, Paul va jeter la base afin de nous aider à bien saisir le combat spirituel. Avant d'amorcer sa discussion et nous aider quelles sont les armes, Paul va juste mettre la base, la toile de fond qu'on a besoin de voir ensemble ce matin. Il va donner trois affirmations qu'on a besoin de voir pour comprendre un peu mieux le combat spirituel. D'accord? Premièrement, la vie chrétienne est un combat, c'est une affirmation, on a besoin de la réaliser et de l'accepter par la foi. Si on croit en Dieu, on doit croire à un ennemi. D'ailleurs, on doit croire qu'il y a une force du mal à quelque part. Je pense que c'est pas tellement débattu. Ils savent pas, ils mettent pas de nom là-dessus, mais les gens réalisent qu'il y a quelque chose d'anormal, mais ils savent pas où mettre le doigt, mais la Bible met le doigt dessus, c'est le diable. La vie chrétienne, premièrement, est un combat. Donc, la vie chrétienne est un combat, la lutte appartient au Seigneur, et troisièmement, la bataille est la nôtre. Premièrement, la vie chrétienne est un combat. L'une des conséquences qui est merveilleuse, on dit ça aux gens, si on est au Seigneur, on va connaître une paix qui dépasse la logique. C'est une paix intérieure qui est profonde, qui est superbe. Et c'est vrai, on reconnaît d'ailleurs, c'est un des fruits de devenir un chrétien, c'est que tu vas découvrir une paix à l'intérieur, un repos de l'âme, dans le fond. Et Jésus l'a dit d'ailleurs dans Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Le repos du cœur, le repos de l'âme se trouve vraiment en Jésus, premièrement. Ça continue avec Philippiens 4, où il est dit, « La paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. » Dans le passage, ça parle des choses qui peuvent nous inquiéter. Ça parle d'inquiétude. Et l'apôtre Paul va nous dire, écoute, quand tu es inquiet, inquiète-toi pas, mais va à Dieu, répands à Dieu tes besoins, tes soucis, tes préoccupations, et tu vas voir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Va garder ton cœur en paix. Va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Romains 5:1 parle d'une autre paix que nous avons avec Dieu maintenant. Nous sommes déclarés justes sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres mots, lorsqu'on vient au Seigneur, nous étions des pécheurs avant, nous étions des ennemis de Dieu, nous dit la Bible, des étrangers même. Mais lorsqu'on vient au Seigneur Jésus par la foi, qu'on croit à ce que Jésus a fait sur la croix pour prendre ma place, les conséquences que je méritais, le châtiment éternel que je méritais, a été transféré, imputé sur ses épaules. Lorsque je place ma foi sur lui, qu'est-ce qui arrive? Il me donne sa justice. Il me transfère sa justice et la vie éternelle. Et je suis maintenant en paix avec Dieu. Je ne suis plus l'ennemi de Dieu. Je suis un enfant de Dieu adopté. Je fais partie de sa famille. Galates 5, 22 dit, l'un des fruits de ça, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. La paix est l'une des caractéristiques du chrétien. Parce que quand on devient un enfant de Dieu, nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. On est en guerre avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? On était en guerre avec Dieu avant, mais maintenant on est en guerre avec le diable. Tu viens de déclarer la guerre. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est cet acte où tu dis, où tu déclares la guerre au diable. Tu gagneras pas. Je vais grandir. Je veux honorer mon Dieu par ma façon de vivre. La paix, c'est l'une des caractéristiques du chrétien. Parce qu'on devient un enfant de Dieu. Alors, nous avons la paix dans notre conscience. On est en paix quand on pense à notre avenir, notre éternité. Et on le voit dans les services funéraires. J'ai fait assez de services funéraires pour voir constamment ce dénominateur commun. C'est que ceux qui sont en Jésus-Christ ont une paix dans leur cœur sur l'éternité. Ils ne voient pas l'éternité de la même manière. Et nous avons la paix aussi quand on réalise tout ce que Dieu a fait pour nous. Toute son œuvre. Comment il nous aime. Et tout ce qui, jusqu'où il est allé pour nous exprimer son amour. Tout ça nous procure une paix au fond de nous. Alors la Bible, oui, se fait insistante sur le fait que quand tu viens au Seigneur, tu vas connaître cette paix intérieure. Mais la Bible se fait tout aussi insistante que quand tu viens au Seigneur, tu vas avoir également des conflits dans ta vie, dans ton cœur. Vois-tu, l'une des façons que l'on sait qu'une personne est chrétienne, c'est pas uniquement par la paix qu'on a, mais aussi par les conflits qui se vivent à l'intérieur. La vie chrétienne est un combat. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire, moi, normalement, je dois pas être un chrétien, puis ça n'a pas de bon sens. Je suis tellement troublé, ça va vraiment pas bien. Ben, j'ai dit, hey, gloire à Dieu! C'est une preuve que tu l'es! Avant, tu t'en foutais comme la 40. Sois honnête! Vois-tu? Et ça, on a besoin de se le rappeler. On a tellement besoin de se rappeler ça. C'est l'un des fruits d'être chrétien, c'est qu'on vient de s'engager, on vient de s'enrôler dans une armée, puis on fait partie d'une guerre. Une guerre spirituellement. Spirituelle. Écoutez bien ce prédicateur qui est décédé aujourd'hui, J.C. Ryle, qui dit ceci. Il dit, ça coûte cher être un vrai chrétien, selon l'enseignement de la Bible. Il y a des ennemis à vaincre, des batailles à mener, des sacrifices à faire, une Égypte à abandonner, un désert à traverser, une croix à porter, une course à courir. C'est ça la vie chrétienne. Et que tu es content d'être venu le matin, hein? Hey, je te le dis, moi j'étais encourageant ce matin. C'est dans ça que tu t'es embarqué. C'était écrit en petites lettres en bas, tu ne savais pas hein, quand tu as signé. Il dit, la conversion ne met pas une personne dans un fauteuil pour les transporter facilement au ciel. Il dit, c'est le début d'un conflit féroce dans lequel la victoire coûte très cher. Ryle continue, il dira qu'il ne peut concevoir l'absence de conflit dans la vie d'un chrétien authentique. Il dira, la vie chrétienne est une guerre spirituelle avec ses luttes, ses agonies, ses anxiétés et ses conflits. Ryle nous pose la question. Il dit, voyez-vous cette lutte spirituelle dans le fond de votre cœur, dans le cœur de votre cœur? Est-ce que vous voyez cette lutte spirituelle? Êtes-vous conscient de deux principes qui s'affrontent pour imposer leur domination dans votre cœur? Ressentez-vous cette guerre dans votre fort intérieur? Si oui, dira Ryle, alors soyons reconnaissants au Seigneur. C'est un bon signe. C'est une évidence du travail remarquable de la sanctification. Amen. Est-ce que j'entends? Là, on est prête. Amen. Il me semble que c'est vraiment le bon temps de dire amen. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans notre cœur, qui est en train de nous faire grandir et qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. On est en plein là, on est en train de se battre. Puis le Seigneur nous accompagne, est en train de nous faire grandir afin qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Et que c'est glorieux. Tous les grands saints, continuent en disant, Ryle, il dit en disant ceci, tous les grands saints sont des soldats. Un vrai chrétien peut se reconnaître autant par ses luttes intérieures que par sa paix intérieure. Et c'est le point que Jésus faisait justement lorsqu'il parlait à ses disciples dans Matthieu chapitre 11. Et il va dire ceci, depuis l'époque où Jean-Baptiste, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, d'autres mots, depuis que j'ai commencé mon ministère, Jésus a commencé pendant que Jean-Baptiste était là, depuis l'époque de Jean-Baptiste, et même dans le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Un verset très compliqué. Ça veut dire quoi? Essentiellement, c'est que le royaume de Dieu se fait et se fera attaquer. Des forces invisibles cherchent à le détruire. Jésus parle de Jean-Baptiste. Ce qu'il est en train de dire, essentiellement, c'est que Jean-Baptiste vraiment est arrivé, puis il était le dernier saint de l'Ancien Testament et le premier saint du Nouveau Testament, la nouvelle ère, hein, quand Jésus est arrivé, l'ère messianique. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que Jean-Baptiste est le dernier martyr de l'Ancien Testament et le premier martyr du Nouveau Testament. Mais d'autres suivront. Et Jésus parle de la persécution des chrétiens. Il est en train d'annoncer, préannoncer, que ce ne sera pas facile, la vie chrétienne. Il nous avertit que la vie chrétienne ne sera pas de tout repos. Une traduction moderne des paroles de Jésus dans Matthieu serait ceci. Il dit, le royaume de Dieu va avancer, mais à travers la violence. Ça va être difficile. Ça va être tough. Et on le voit encore aujourd'hui, le dernier siècle. Hein, l'Église a été le plus persécutée dans toute l'histoire de l'Église. C'est pas terminé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toute personne qui a moindrement une vie spirituelle en elle est consciente de la gravité et de l'urgence de la situation. Depuis le moment qu'une personne se convertit à Jésus-Christ, elle va faire face à l'opposition farouche du diable. Sa foi sera continuellement attaquée. Aucun chrétien ne peut l'éviter. Et vous savez quoi? On la voit même pas venir. Et parfois, c'est dans notre ménage où ça se passe. Dans ta vie de couple, dans ton mariage, dans la famille, le diable va se servir de quelque chose pour te détruire. Je donnais l'illustration il y a quelques semaines à un frère qui était préoccupé des affaires qui se passaient dans sa vie, qu'il comprenait pas. Puis ça, puis je dis, écoute, le diable, c'est pas compliqué, là. T'as un gros aquarium comme ça, là, immense, là. Puis c'est plein d'eau, là, avec des beaux poissons, tout ça. Puis il y a une petite craque, une petite faille au coin droit en bas. Où c'est que vous pensez que toute la pression va aller? Ça ira pas l'autre bord, t'auras pas de problème. Absolument aucun problème, tout le reste, c'est bien correct. Toute la pression va aller là pour sortir. Le diable est comme ça avec nous autres. Il va aller voir une portion de ta vie qui est un peu vulnérable, fragile, puis il va sauter dessus pour essayer de te détruire, se servir de ça pour essayer de te détruire. Alors, le message, c'est quoi? Combattons. Il faut combattre. Non, c'est pas la serviette. Il faut vraiment combattre. La victoire est là. Combattons le bon combat. J'ai un de mes amis que, tu sais, des fois, tu partages l'évangile à des gens, puis la personne dit non, elle refuse, puis tout ça, tu la rencontres, c'est un de tes amis, fait que tu le vois souvent, peut-être un collègue de travail, les années passent, tu leur parles de l'évangile, une autre situation, un autre contexte, il dit non, puis là, il y a des affaires qui se passent dans sa vie, des épreuves, puis ça le sensibilise un petit peu, là, tu représentes l'évangile, tout ça, puis il dit, ah non, ça m'intéresse pas, puis les années passent, d'autres affaires qui se passent dans sa vie, tranquillement, son cœur est en train d'amollir. Et c'est arrivé avec un de mes grands amis, où le jour, il est arrivé à un moment donné, puis il m'a dit, « C'est-tu normal? » J'ai réalisé une chose. Parce que je lui ai demandé, j'ai dit, « Ça fait des années que tu refuses l'Évangile. Qu'est-ce qui a tout d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as essayé de connaître? C'est quoi qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose qui a fait renverser tout ça? » Il dit, « Sais-tu, je regarde tout ça, je regarde ma vie, parce que là, il se faisait un peu plus vieux, là. Il dit, « Je regarde toute ma vie, puis je me rends compte, la conclusion, c'est que la vie, là, que tu sois chrétien ou pas, c'est tough! » Et je me rends compte, c'est une guerre, c'est une jungle out there, c'est tough, mon ami. Puis j'ai dit, fait que là, je suis arrivé à la conclusion, je lui ai dit, garde, tant qu'être dans une guerre, puis me battre, mon ami, tout le temps, j'ai tout soumis de faire partie de la bonne gang. Ça, c'était son raisonnement. Il dit, de toute façon, je vais me battre, Normand. Je vais me battre, la vie est pas facile. Je vais me battre. Je suis obligé de faire partie de la bonne équipe. Alors, j'ai dit, OK, c'est vrai. La vie n'est pas facile. Mais c'est encore tough quand t'es chrétien, parce qu'il y a une autre dimension aussi spirituelle qui est là. Il y a un combat spirituel qui est là. Maintenant, pourquoi on a besoin d'amener ce combat-là? C'est parce que la lutte appartient au Seigneur. C'est encourageant. Verset 10 dit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » En d'autres mots, si Dieu existe, si Jésus existe, le diable existe. Parce que si tu crois à Jésus-Christ, tu vas croire ce qu'il a dit, puis Jésus-Christ nous a parlé du diable. Maintenant, un jour, les disciples sont envoyés dans leur mission, un voyage missionnaire, un petit voyage missionnaire, s'en vont dans les villages, et Jésus prend 70 disciples et les envoie, leur donne une puissance, la puissance du Saint-Esprit, et ils s'en vont dans les villages, un peu partout, les villes en village, tout ça, puis ils s'en vont prêcher la parole. une gang de personnes, et tout ça, d'un coup, ils découvrent la puissance du Saint-Esprit la première fois de leur vie, là. Ils s'en vont dans les villages, prêchent la parole, des gens se convertissent, se repentissent, des gens qui sont guéris, des démons chassés, tout ça. Les disciples sont comme tout excités, ils n'en viennent pas. Alors, ils s'en reviennent du voyage missionnaire, ils ont vu des choses, l'œuvre de Dieu incroyable, changer des vies, transformer des vies. Et là, ils s'en reviennent, ils sont tout excités, ils sont passionnés. C'est beau de voir ça, des chrétiens passionnés de voir l'œuvre de Dieu avancer. On peut se passionner pour toutes sortes d'affaires, des belles affaires dans la vie, tu sais, comme Dominique nous racontait la semaine dernière, qui se passionnait pour l'équipe de hockey des Canadiens. Maintenant, je sais pas comment il se sentait à la fin de l'après-midi hier. Mais, il aime ça. Puis, il y a des belles choses comme ça dans la vie, puis c'est correct. On se passionne pour ces choses-là. Mais, ultimement, est-ce qu'on veut pas se passionner pour voir l'œuvre de Dieu avancer? Alors, les disciples viennent voir Jésus, ils sont excités. Puis là, il raconte à Jésus, « Jésus, t'en reviendras pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Mon ami, je suis en train de prêcher, puis tout ça, puis il y avait des démons, j'ai chassé, il y avait des gens qui étaient malades, je les ai guéris, puis je prêchais, puis les gens se croyaient, se convertissaient. » Les gars sont tous contents, sont tous excités, puis ils racontent ça à Jésus. Maintenant, Jésus va dire quelque chose de vraiment intéressant. Jésus se réjouit, il est content de voir tous ses disciples qui reviennent, qui sont partis en mission, qui sont revenus, puis vraiment la victoire, là, c'est éclatant. Là, Jésus va dire quelque chose de vraiment particulier. Il ouvre le rideau et nous aide à voir ce que lui voyait, que nous autres, on ne voyait pas. Nous autres, on peut pas voir. Il voit quelque chose que nous, on n'a aucune espèce d'idée. En fait, les gens des villages, tout ce qu'ils voyaient, c'était des itinérants qui se promenaient et qui prêchaient la Bible, puis qui guérissaient des malades et tout ça. Ça, c'est tout ce qu'on voit à l'œil nu. Mais Jésus va nous révéler, va nous parler de quelque chose que lui voyait avec ses yeux surnaturels. Il voit le monde spirituel. Et il raconte ce qu'il voyait pendant que ces gens-là allaient porter la Bible puis prêcher la parole. Et puis les gens se convertissaient. Il dit, je regardais, verset 18, je regardais, dans Luc 10, il dit, je regardais, et je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus est en train de dire, il est en train de leur dire, il nous dit, pendant que vous étiez en train de prêcher, que la parole de Dieu est en train d'avancer, je voyais le diable, je voyais Satan tomber comme un éclair. Là, il est question de la chute de Satan à mesure que le royaume de Dieu progressait. Par la prédication de l'Évangile, le règne du diable reculait. Et Jésus est en train de leur dire, je le voyais. Nous on ne voit pas. On ne sait pas quand tu es dans ton bureau, puis tu es en train de prendre l'heure de lunch, puis tu es en train de partager la parole de Dieu à quelqu'un, dans ton petit cube, là, dans ta petite boîte, tu es avec quelqu'un d'autre, en train de manger ta sandwich, puis tu es en train de parler de Dieu. Toi, tu vois pas ce qui est en train de se passer. Jésus est en train de nous dire, regarde ce qui est en train de se passer. Dis-moi, je l'ai vu. Pendant que les disciples évangélisaient les villages, Jésus avait par sa science surnaturelle, son omniscience, il avait connaissance du progrès du règne de Dieu. Satan est en train d'essuyer un échec, il tombait du ciel comme un éclair. La défaite de Satan ici, conséquence de la prédication de l'Évangile, c'est le prélude de sa chute définitive qui va avoir lieu à la fin des temps. Et Jésus fait une promesse. Il dit, mes amis, moi, je vous ai donné la puissance que vous avez besoin. Je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions. Allez pas essayer ça cet après-midi. C'est Paul, c'est arrivé, mais moi, je veux pas prendre de chance. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, il l'a donné à ses disciples immédiats. Il a pas dit ça à tout le monde. Il donne ça à ses disciples. Mais ce qu'il est en train de dire, ce qu'il a donné à tout le monde, c'est que rien ne pourra vous arriver, vous nuire. Pourtant, les disciples sont terminés martyrs. Il n'est pas en train de dire qu'il t'arrivera absolument rien de mal. Non, parce que justement, on est en train de regarder la guerre spirituelle. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ultimement, tu vas avoir la victoire sur tes péchés. Tu peux avoir la victoire sur les péchés. Tu peux avoir la victoire contre les forces du mal qui vont essayer de t'attaquer. Tu es capable de te tenir debout parce que je t'ai donné tout ce que tu as besoin d'avoir pour avoir la victoire. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Jésus nous promet la victoire. C'est une victoire assurée dans la mesure qu'on reste collé au Seigneur. Parce que, vois-tu, la lutte appartient au Seigneur. Il nous promet la victoire. Imaginez toute cette petite mission de 70 personnes qui commencent à propager la parole de Dieu. Mais cette petite mission est un avant-goût de ce qui allait se produire au jour de la Pentecôte, où 3000 personnes vont se convertir. Et l'Évangile s'est répandu à travers le monde. Mon ami, en Chine, on prédit qu'en 2030, il va y avoir plus de chrétiens en Chine qu'il y en a au Mexique, au Brésil et aux États-Unis. Dans une terre communiste, hostile à l'Évangile, ça n'arrête pas de se convertir, il y a un réveil spirituel spectaculaire. Contre les forces, on est hostile, et pourtant il va y avoir plus de chrétiens, tantôt, qu'il y en a aux États-Unis. Une terre dite « chrétienne », entre guillemets. C'est ça. Seigneur, c'est ça que le Seigneur a dit. L'Évangile va triompher. Et pour nous, on a besoin de se fortifier dans le Seigneur, parce que toutes les autres forces, là, c'est juste faiblesse. Ça durera pas. Des fois, on veut faire ça par nos propres forces. Mon ami, ça t'offre pas. Ah, peut-être une fois ou deux, une couple, là, tu sais, mais ça sera pas durable. La vie chrétienne est un combat, la lutte appartient au Seigneur, et dernièrement, la bataille est à nous autres. Elle est la nôtre. La bataille. Verset 10 dit, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Oui, la vie chrétienne, c'est un combat. On livre ce combat par la force et la puissance du Seigneur. Et c'est ça le secret. C'est ce qu'on a besoin. Il faut se rappeler qu'on est des soldats. On est sur une terre hostile. On est dans le territoire ennemi. Le diable veut nous détruire. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es dans une guerre? Puis le général te dit, charge! C'est le temps d'avancer. Tu te lèves, tu fonces. Tu te lèves, tu fonces. Et le Seigneur est en train de dire, vas-y, charge, fonce, fonce. Puis le Seigneur te promet la victoire. Ce matin, on a besoin, on commence juste la série, puis on a besoin de réaliser que la vie chrétienne, c'est un combat, et qu'on veut charger. On veut se lever, charger, et ce qu'on veut, c'est renverser des forteresses. Comme ce passage où Paul dit ceci. Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit, « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. » Tu sais quoi le message ce matin? Une chose. Il y a des forteresses dans ta vie que tu as besoin de renverser, n'est-ce pas? Tu les connais. Si tu ne les connais pas, le Saint-Esprit peut t'aider, te les montrer. Il y a des choses dans ta vie que tu as besoin de prendre en main et de dire, moi c'est fini. Ça ne sera pas une forteresse contre moi, je n'accepte plus ça. S'il y a du péché dans ta vie qui traîne, tu veux renverser ça, tu veux avoir la victoire parce que Jésus te promet de te donner tout ce que tu as besoin pour avoir la victoire. Amen. Renversons la forteresse. Tu vois un péché qui commence dans ta vie? Saute dessus, attaque-les, sans pitié. Pas de miséricorde, pas de grâce. Saute dessus, attaque, mon ami. Tue-la. Il y a une tentation qui se présente, tu te lèves, tue. Renversons la forteresse. On est capable, bien-aimé. Le Seigneur nous a donné tout ce qu'on a besoin pour avoir la victoire. Et Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ça. Parce que cette victoire nous est acquise par le sacrifice de Jésus. Et nous voulons prendre la Sainte-Seine ce matin en nous rappelant ce que tu as fait à la croix. Cette grande victoire, cette proclamation qui s'est étendue à travers l'univers où tout est accompli. Oui, Seigneur, la victoire est possible en toi. Nous te remercions. Nous voulons nous rappeler cette belle victoire acquise à la croix ce matin en prenant la Sainte-Seine. Pour ta gloire. Amen.